on appelle sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
À suivre, vos réactions sur la dégradation de la situation sécuritaire au Mali et ce à quelques jours du renouvellement du mandat de la MINUSMA, la mission des Nations Unies, qui a bien du mal à trouver un équilibre entre sa mission sur le terrain et la sécurisation de son personnel, la MINUSMA qui d'ailleurs manque cruellement de matériel. En tout cas, dans son rapport rendu public il y a quelques jours, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, souligne que les incidents liés à la sécurité ont augmenté de 200% au cours de la dernière année. Il pointe également la responsabilité des forces armées maliennes, mais aussi des groupes signataires de l'accord de paix, tout comme les groupes dissidents dans les nombreuses atteintes aux droits de l'homme. L'ONU a recensé, tenez-vous bien, 239 exécutions extrajudiciaires, 25 enlèvements et 42 détentions illégales. Alors que vous inspire ce constat ? Pourquoi finalement est-il si compliqué de restaurer la sécurité, d'appliquer l'accord de paix ? Faut-il donc renforcer le mandat de la MINUSMA ? Et puisque nous sommes à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle, dites-nous si l'insécurité viendra perturber la bonne organisation du scrutin. 33 9 693 693 70. On en parle ensemble durant les 20 prochaines minutes. Je lirai évidemment quelques-unes de vos réactions postées sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, c'est Amadou qui lance le débat. Bonjour Amadou.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Bamako.
Oui.
Et vous n'êtes pas surpris, vous, par ce rapport des Nations Unies ?
Oui, je ne suis pas du tout surpris parce que la réalité sur le terrain est patente. Le régime du BK a échoué. Il est venu pour régler le problème du Nord. Il n'a pas pu le régler et il vient s'ajouter le problème du Centre. La MINUSMA qui est supposée nous sortir du trou aussi est venue avec les hommes sans équipement comme vous venez de le dire. Alors donc là, vraiment, on est mal barré. On est très très mal barré. Aujourd'hui, on craint même pour ceux qui restent du Mali encore en sécurité. Et donc, je pense qu'il faut véritablement un changement lors de cette élection présidentielle parce que ce régime-là a montré ses limites. La MINUSMA, si elle doit rester au Mali, doit revoir ses plans, doit avoir un mandat plus robuste, plus adapté à la situation du terrain parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas à l'abri. Comme vous l'avez dit, ils ont perdu beaucoup d'hommes sur le terrain. Donc, on ne peut pas envoyer autant d'hommes et ne pas lui donner les moyens, le matériel qu'il faut. C'est inadmissible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire s'ils n'ont pas le matériel.
La MINUSMA, rappelons-le, a perdu 174 soldats depuis son déploiement sur le territoire malien. Vous êtes d'accord, peut-être, Amadou, avec cet auditeur ici à K sur Facebook qui nous dit que, malgré le nombre important de casques bleus au Mali, la violence continue. La MINUSMA a donc besoin d'un mandat renforcé lui permettant d'être à l'offensive au même titre que Barkhane. C'est la réalité du terrain qui exige cette mesure offensive indispensable pour imposer la paix. Donc, il faut que la MINUSMA ne soit plus sur la défensive.
Je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas être sur la défensive. Même la position de leur camp n'est pas inadmissible et n'est pas admissible. Vous ne pouvez pas être en ville et vouloir sécuriser les gens. Donc, du coup, vous mettez même en danger les populations. Il faudrait qu'ils sortent des villes, que les camps de la MINUSMA sortent de la ville. Si vous voulez sécuriser les populations, vous devrez dire à ces populations. Parce que tous les obus qui sont tombés ont souvent fait des victimes civiles, des victimes militaires aussi bien que civiles. Donc, effectivement, je suis d'accord, je l'ai dit même dans mon entretien préparatoire avec votre collègue, qu'il faut que la MINUSMA passe à l'offensive.
Ouais.
Il faut qu'ils arrêtent le tourisme militaire. Le tourisme militaire n'arrange pas la situation. Ils ont amené des fils des gens qui sont en train de tuer. Ils sont pas en train de sécuriser le Mali. Ils sont là qu'il n'y a pas des rapports bidons.
Oui. Mais en même temps, vous êtes critique. Alors, excusez-moi, Amadou, vous êtes critique à l'endroit du chef de l'État, IBK, à l'endroit des casques bleus. Et que dites-vous de votre armée, l'armée malienne?
Ben, l'armée ne peut être qu'à l'image de son gouvernement. On est en train de nous dire que l'armée est en train de monter en puissance, mais on le voit pas sur le terrain. C'est pas les discours. Il faut qu'on sorte des discours.
Ouais. Enfin, ça c'est votre analyse à vous. En tout cas, on a pu entendre il y a quelques semaines sur notre antenne au micro de Christophe Boisbouvier, le porte-parole du gouvernement, assurer que la sécurité des Maliens s'améliorait de jour en jour, que l'armée malienne était équipée et qu'on sentait, disait-il, une montée en puissance de l'armée malienne qui n'était plus sur la défensive mais désormais à l'offensive. Ce sont les propos tenus donc à ce moment-là par le porte-parole du gouvernement dans nos studios. Merci beaucoup Amadou, bonne journée à Bamako, Issiaka, soyez le bienvenu.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes assez pessimiste quant au bon déroulement des élections dans un mois?
Oui Juan, je suis pessimiste quant à la réussite des élections dans le nord du Mali et dans le centre du Mali. Puisqu'aujourd'hui que les groupes armés et les groupes terroristes se sont proliférés dans cette partie, dans ces deux parties du territoire qui sont importantes, je pense qu'il sera très très difficile de pouvoir réussir les élections, puisque que le gouvernement du Mali parvienne à réussir les élections, ce serait comme un fiasco pour ces terroristes-là qui veulent imposer leurs lois. Mais je pense que pour pouvoir venir à bout de cette mission, il faudra que l'administration qui aura un mandat renouvelé ait un mandat renforcé, comme l'a dit mon prédécesseur. Et aujourd'hui, on le voit sur le terrain, c'est la violence. Et on veut tout simplement dégager ce gouvernement du Mali et les forces armées du Mali dans le nord du Mali. Alors, il est difficile d'organiser ces élections si toutefois l'administration n'a pas un mandat renforcé qui lui permet d'aller à l'offensive. Ça veut dire que la réalité du terrain aujourd'hui dans le nord du Mali, ce n'est pas d'avoir une force tampon ou une force de stabilisation seulement. Il faut que l'administration se transforme en une force qui peut aller à l'offensive. Je le dis bien au même titre que Barkhane, puisque la réalité du terrain, c'est là aujourd'hui.
Vous êtes nombreux à dire, il faut absolument que les casques bleus aient le même mandat que la force Barkhane, la force française déployée dans le Sahel. Marie-Pierre Olfan, qui est venue en première partie d'émission répondre à une question justement sur ce rapport d'Antonio Guterres, disait que la sécurité reste la grande inquiétude, et notamment dans le centre du pays où sur certaines routes, les gens n'osent même plus se déplacer, et elle disait qu'on voyait mal aujourd'hui comment les gens pouvaient ou pourront aller voter le jour J si l'insécurité persiste justement dans certains secteurs du centre du pays. Issiaka, merci beaucoup d'avoir appelé. Bonne journée à Bamako sur Facebook. Pancras pense que le moment est venu pour que la MINUSMA s'en aille. Si depuis 5 ans, elle n'a rien pu faire, ce n'est pas maintenant qu'elle fera un miracle. L'État malien doit désormais investir dans la formation de son armée. Seule solution, nous dit cet auditeur, pour assurer de façon pérenne la sécurité de ce pays. 33 9 693 693 70. Bonjour Mohamed.
Bonjour Juan.
Bienvenue. Vous êtes dans la région de Sikasso, c'est bien ça?
Oui, je suis dans la région de Sikasso, en ce moment à Koudiala.
Koudiala, très bien.
Koudiala.
Vous partagez le pessimisme à l'instant des deux premiers auditeurs quant à la bonne tenue des élections prévues dans un mois, ou est-ce que vous craignez que l'insécurité vienne un peu perturber le déroulement du scrutin?
Ben ouais, vous convenez avec moi qu'il n'y a jamais une élection parfaite. S'il y a des élections au Nigeria où Boko Haram sévissait depuis un moment. Il y a eu des élections également en Afghanistan, où chaque jour, c'est des milliers de personnes qui meurent sous la bombe des terroristes. Ce n'est pas au Mali qui ne peut pas avoir des élections. Et aujourd'hui, dans le centre du Mali, ce n'est pas tout le centre du Mali qui est en insécurité. C'est des zones qui sont, des villages qui sont en insécurité. Il y a des villages aujourd'hui qui sont identifiés où il y a des populations qui sont en train de s'entretuer entre ces populations, les Peuls et les Dogons. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, moi, je pense que les élections peuvent se tenir.
Mais si ces villages sont identifiés, Mohamed, pourquoi ne pas déployer sur place les forces de sécurité nécessaires pour maîtriser la situation? Je lisais tout à l'heure, évidemment, avant d'entrer dans le studio, vos messages postés sur la page Facebook. C'est Issa qui nous dit, voilà, je suis dans le centre du Mali où nos parents subissent toutes les conséquences de cette crise. Des combats entre les communautés Peuls et Dogons ont eu lieu hier matin dans le cercle de Douenza. Impossible donc d'organiser des élections dans cette zone. Mais pourquoi ne pas déployer tout simplement les militaires maliens, la force Barkhane ou les casques bleus?
Écoutez, ouais, moi je pense que ce qu'on appelle ici le plan de sécurité intégrée des régions du Nord a été adopté et mis en œuvre. C'est un processus. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de secteurs dans le centre du Mali qui sont en sécurité. Maintenant, ces zones où il y a ces conflits en ce moment, c'est sûr et certain que l'État du Mali et le gouvernement du Mali prendra toutes les dispositions d'ici la tenue des élections pour pouvoir quand même déployer les forces de sécurité maliennes dans ces zones pour quand même permettre aux populations de participer aux élections.
D'accord, donc vous êtes plutôt optimiste, Mohamed. Merci de nous avoir appelés, bon courage, bonne journée à vous. 33 9 693 693 70, à un mois de l'élection présidentielle au Mali, craignez-vous que l'insécurité vienne perturber la bonne organisation du scrutin? On en parle ce matin durant encore une dizaine de minutes. Bonjour Aboubacar.
Oui, bonjour.
Vous êtes originaire de la région de Mopti.
Tout à fait.
Et vous êtes confiant ou pas, ou inquiet?
Très inquiet, parce qu'en réalité, moi j'ai dit, je fais faire critique à l'endroit de qui que ce soit, que ce soit la partie majoritaire ou bien les parties, disons, de l'opposition. Ils auraient pu, 2 ans avant aujourd'hui, au moins avoir la réflexion par rapport, disons, à un débat.
Oui.
Et en se disant qu'il faut vraiment prévoir un plan B de sortie de crise, au cas où, en tout cas, l'insécurité va rester persistante, disons, au niveau du centre, qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire? Moi, je crois que les gens n'ont pas été prévoyants, ils n'ont pas, en tout cas, anticipé tous les événements. Donc, aujourd'hui, moi, je dis, les 4 électeurs sont arrivés, mais bien sûr, il faut les distribuer. Il faut des gens pour animer les stades, disons, de votes.
Ouais. C'est-à-dire que les cartes d'électeurs, vous dites, sont en train d'arriver. Maintenant, vous avez des inquiétudes quant à la distribution de ces cartes pour que tout le monde puisse les avoir, notamment dans des endroits reculés, et pouvoir voter le jour J.
Le jour J, le 29.
Oui, le 29 juillet.
D'une élection présidentielle. On ne va pas quand même voter dans une partie du Mali et puis laisser d'autres parties. Ce sera signé mettre la partition du Mali.
Oui.
Donc moi, je crois qu'il faudrait être très prudent. Moi, de mon point de vue, je dis encore une fois, je crains fort que ces élections quand même puissent avoir lieu et qu'elles soient sincères, inclusives et voilà.
Oui. Mais Aboubacar, la ligne téléphone n'est pas très bonne, mais vous dites on ne peut pas concevoir qu'une partie du Mali ne puisse pas voter. Vous êtes convaincu que le 29 juillet, l'élection aura lieu sur l'ensemble du territoire malien?
Pas tellement convaincu, à moins qu'aujourd'hui, que la MINUSMA nous dise, ou en tout cas la communauté internationale nous dise qu'ils ont au moins un soldat derrière chaque électeur, nous sommes 8 millions d'électeurs qui doivent aller aux urnes, et à moins un soldat derrière chaque électeur pour aller aux urnes. Voilà mon problème.
D'accord, donc si le 29 juillet, il n'y a pas un militaire, un soldat derrière chaque électeur, vous pensez qu'une partie du pays ne pourra pas organiser correctement le scrutin présidentiel. Merci d'avoir appelé. Bonne journée, bon courage. Falaï, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne d'RFI. Nous vous écoutons. Est-ce que vous faites partie des optimistes ou des pessimistes à 5 semaines du scrutin?
Carrément, je fais partie des pessimistes pour les élections. Bon, si on pense que le rôle du président de la République ou bien le contrat du président de la République, c'est un contrat par objectif, c'est-à-dire qu'en fait, il faut atteindre les objectifs. 5 ans après l'élection du président Ibeka, on trouve qu'il a lamentablement échoué. Mais bon, moi je penserais qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est l'inefficacité et le manque de formation de l'armée malienne. Pour moi, pour gagner en fait, une guerre, il faut peut-être 4 choses. Il faut du leadership, il faut la formation des hommes, il faut du renseignement et il faut du matériel. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est le gouvernement malien qui est en train d'aller acheter du matériel pour donner à des gens qui sont mal formés. Et aujourd'hui, tout le problème, en fait, il est là. C'est que, en fait, nous, les Maliens, aujourd'hui, en fait, nous voulons que notre sécurité soit prise en charge par l'armée malienne. Et nous ne voulons pas, aujourd'hui, de casque bleu. En fait, nous aimons bien l'ONU, nous ne voulons pas de casque bleu chez nous, et nous ne voulons pas de l'armée française chez nous.
À choisir, Falaï, vous préférez évidemment que ce soit votre armée nationale qui s'occupe de sécuriser votre territoire et non des troupes étrangères, quand bien même vous aimiez la France, comme vous le disiez à l'instant. Voilà, à choisir, vous préférez avoir des militaires maliens sur le terrain plutôt que des militaires français et des militaires des Nations Unies. Vous dressez un bilan très négatif, vous, de la gestion sécuritaire du pays par le président Ibeka. Vous pensez que ce point précis de la sécurité peut faire basculer la prochaine élection présidentielle? Vous pensez que peut-être c'est sur ce point qu'il risque de ne pas être réélu?
Écoute, Ron, en 2013, moi, j'ai fait partie des gens qui n'ont pas voté pour Ibeka, mais la plupart de mes connaissances ont voté pour Ibeka pour une seule chose, pour ramener la paix au Mali. Mm. 5 ans plus tard, et force est de reconnaître que la paix n'existe pas au Mali. Le Nord, on l'a perdu, le centre est en balbutiement, et même à Bamako, on ne peut même pas circuler.
Ouais. Donc, lui-même a reconnu lorsqu'il a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle il y a quelques semaines, il a reconnu que la lutte contre le terrorisme était beaucoup plus complexe que ce qu'il avait lui-même pensé et estimé avec son équipe et les membres du gouvernement. Merci Adama, bonjour Gabriel.
Bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Yeah, ok. Moi, je pense que la question sécuritaire, c'est pas Ibeka. Ibeka, certes, il est venu, les gens ont voté pour lui pour régler la situation sécuritaire du Mali. Mais comme depuis le président ATT, moi, je pense que c'est très clair. Lui, il a été clair. Il a dit que c'est pas un problème que le Mali seul peut régler. Moi, je pense que l'approche même de cette question sécuritaire au Mali, je pense que ça a été mal commencé. Comme ATT l'avait proposé, si les pays voisins du Mali s'étaient impliqués dès le départ, moi je pense que les bandits terroristes n'allaient pas avoir la possibilité de faire des mouvements comme ils veulent.
Ouais, quand vous dites les pays voisins, est-ce que vous pensez d'abord à l'Algérie?
Oui, bien sûr, en première position. Hmm. Ça, c'est très clair, parce que tout le monde sait que les bandits terroristes font des mouvements, l'Algérie, le Mali, mais il y a une frontière. Hmm. Si les deux pays se sont donné la main et si l'Union africaine était derrière tout ça depuis le début, on n'allait pas arriver à ça aujourd'hui.
C'est ce que préconise Antonio Guterres dans son rapport. Dans son rapport, il dit, voilà, si on veut aller vers la paix, si on veut sécuriser le territoire malien, parmi les nombreuses recommandations figure l'implication des pays voisins, notamment au nord, et qui dit nord du Mali, dit forcément l'Algérie.
Exactement. Maintenant, dire que nous ne voulons pas de l'amunissement des casques bleus de l'armée française, moi je pense que ça c'est archi faux. Ça, c'est archi faux. Et dire que notre armée, nous avons des hommes valables sur le terrain. Mais lutter contre le terrorisme, ce n'est pas une affaire d'une seule nation. Même les États-Unis ont de la peine à lutter contre le terrorisme. À plus forte raison, le Mali seul. Donc, l'amunissement, nous saluons vraiment la présence de l'amunissement. Mais il faut juste revoir le mandat. Que l'amunissement soit une force de combat et une force d'observation seulement.
Ouais. Mais enfin, si on prend un exemple, en préparant l'émission, je me documente évidemment, je vois que depuis des mois et des mois, une force d'intervention rapide basée à Mopti est censée être installée pour aider la MINUSMA, pour être donc cette force d'intervention rapide. Un bataillon d'environ 650 militaires sénégalais, appuyé par 2 hélicoptères, eh bien, cette force n'est toujours pas opérationnelle, alors qu'elle devait être déployée en février. Et personne n'arrive à expliquer ce retard, c'est-à-dire que le Sénégal et l'ONU se renvoient la balle. Donc voilà, le temps passe, les semaines défilent et l'insécurité persiste.
Oui, Juan, tout ça c'est des questions de décision. Quand je parle de l'approche, c'est tout ça. Parce que là, il faudrait que tout soit clair dès le départ. Et il ne s'agit pas de déployer 600 hommes et puis ils sont là armés mais ils ne peuvent pas intervenir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de décision. Il faut qu'il y ait une décision en amont.
Bien.
Et quand les hommes sont sur le terrain, c'est pour agir et non pour attendre des décisions encore. Quand on envoie des troupes en mission, la mission elle est claire, vous partez pour tel objectif. Mais quand il n'y a pas d'objectif déterminé à la troupe, elle arrive, elle est obligée d'attendre encore des décisions.
Oui. C'est également ce que préconise et recommande Antonio Guterres, mieux définir la hiérarchie des actions que la MINUSMA doit mener sur le terrain pour être plus efficace. Merci à tous de votre fidélité. Demain, nous parlerons football, nous dresserons un premier bilan de la Coupe du Monde, puisque ce soir, toutes les équipes auront joué au moins une fois, et pour l'instant, ce qui ressort, c'est que les grands favoris sont à la peine, puisque ni l'Allemagne, ni l'Espagne, ni le Brésil n'ont réussi à s'imposer lors de leur premier match. La France, vous me direz, a gagné. Oui, elle a gagné, mais enfin, elle a gagné dans la douleur. Et que dire des équipes africaines? 4 équipes ont déjà joué une fois. Aucune n'a remporté le premier match. Le Sénégal, cet après-midi, sauvera-t-il l'honneur du football africain? On en parlera donc demain matin, tous ensemble.
C'était Appel sur l'actualité avec avec Orange Money, la référence du paiement de facture via le mobile.
Bonjour Sandrine Mercier.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Priorité.